Cette nuit, mon ordinateur a divorcé de mon imprimante. Et ce matin, imprime, puis ils sont en chicane l'un contre l'autre, puis le problème n'est pas réglé encore. Donc, voici l'ordinateur. Et naturellement, on sait c'est quoi, hein, la technologie. Donc, ça marche, ça va bien quand ça fonctionne. Mais il faut que ça fonctionne. Et ça s'en vient, voilà. Un clic, puis on va y être. Bien, servir pour grandir. C'est vrai, ça, c'est authentique, ça. Servir pour grandir. Tout le mois d'octobre, j'ai pris un mois de vacances. J'ai vraiment pris un mois où je n'étais pas à l'Assemblée, j'étais parti d'un endroit. J'ai donc arrêté de servir. J'ai donc arrêté de grandir aussi. Hein, ça va de soi. J'ai surtout arrêté d'agrandir mon linge. Bien. Servir pour grandir. Oui, servir pour grandir, oui, mais. J'ai voulu changer le titre. J'ai voulu parler de dire, « Ah, il me semble que le titre fait pas bien. Il porte à confusion. » Mais j'ai préféré, j'ai dit non, je vais le laisser, puis je vais plutôt expliquer ma confusion. C'est pas tout à fait exact. On pourrait pas dire, je vais servir dans le but de grandir. Je vais servir et qu'il va avoir pour résultat la croissance, qu'il va avoir pour résultat que je vais grandir. Mais le but de servir n'est absolument pas de grandir. Ce n'est pas le but. Et si ce n'est pas le but, parce que c'est important de connaître le but, pourquoi qu'on fait les choses. Si on fait les choses pour la bonne raison, on va arriver à un bon résultat. Si on fait les choses pour la mauvaise raison, on va être déçu, car la chose que l'on fait n'est pas faite pour. Donc, grandir, oui, on va grandir, on va expliquer comment ça se fait, quel est le résultat de cela. Mais le but, on pourrait lire dans, premièrement, le but, la raison d'être, de servir, est dans 1 Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 26. Et nous, j'ai beaucoup de technologie ce matin et j'ai de la misère à composer avec ça. Donc, vous allez exercer votre pardon ce matin. 1 Corinthiens 14 au verset 26 qui nous dit, « Que faire donc? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse, toutes les actions aussi, pour l'édification? » Et là, j'ai la manette pour avancer, j'imagine. Non, j'ai oublié de la demander. Et que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour la construction. L'édification, monter un édifice. Voilà, c'est ici. Merci, merci de m'éclairer, Christian. Il sert ce matin, Christian. Hein? Et édification, action de construire, de monter un édifice. Naturellement, dans le Nouveau Testament, le mot est employé au sens figuré, c'est-à-dire de permettre une croissance spirituelle, de permettre une édification de nos cœurs pour la gloire de Dieu. Donc, le but premier dans le service est la croissance de l'autre. Même le but du service dans Romains, au chapitre 15, du verset 1 jusqu'à verset 3, traduit bien cette pensée d'édification. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre sanctification. Que chacun de nous recherche la sanctification de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi, à s'édifier. Car Christ n'a pas cherché sa propre sanctification, mais il a dit, comme le déclarent les Écritures, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » version du semeur. Le but premier de servir, c'est l'édification des frères, des sœurs, l'édification de l'Église, la construction de l'Église, et non pas notre bien-être personnel. Si on peut le faire pour notre bien-être personnel, mais il ne faudra pas être déçu qu'on n'atteigne pas le but, qu'on n'atteigne pas ce but-là, parce que le Seigneur a fait le service pour l'édification des autres. Il existe plusieurs manières de servir. Il existe plusieurs étapes, plusieurs choses que l'on pourrait faire. Mais il n'en existe seulement qu'une bonne. Une bonne manière de servir. Et c'est celle selon Dieu, et non selon nos pensées, selon nos attributions, nos vues. Donc, la première pensée, lorsque Dieu nous demande de servir, c'est comment mon frère, ma sœur, ou peut-être l'assemblée au complet, pourrait être édifié de mon action, afin que cette frère, que cette sœur puisse glorifier le Seigneur, ou l'assemblée au complet. C'était la manière de faire de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Un exemple, lorsqu'il a guéri le lépreux dans Matthieu 8:4, il a dit, « Ne le dis à personne, mais va glorifier Dieu au temple comme Moïse l'a prescrit. » Il ne voulait pas que les spots soient sur lui, il ne voulait pas que tout le monde sache ça, mais il voulait que vraiment Dieu soit glorifié à travers son service. Et c'était le but premier de Jésus, lorsqu'il venait sur la terre, de glorifier son Père. Et toutes ses actions étaient en fonction de cela. Tout son service était en fonction de glorifier le Père, et non pas lui, comme homme. Qu'est-ce que je dois attendre? Qu'est-ce que je dois attendre de mon service? Je vais finir par le trouver. Qu'est-ce que je dois attendre de mon service? Rien. Je ne dois rien attendre de ce que je vais faire pour Dieu. Je dois tout simplement le faire, sans chercher ma propre sanctification, sans chercher mon propre bien-être. Oui, notre bien-être peut arriver quand même. Ça se peut qu'on soit dans la joie de servir. C'est possible, c'est très, très possible. C'est toujours joyeux, c'est toujours plaisant d'être utile à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est que l'autre puisse glorifier Dieu. On doit s'attarder aussi au fameux mot « servir ». Qu'est-ce que c'est « servir » ? Qu'est-ce que c'est « servir » ? Servir n'est absolument pas une question de capacité. C'est une question de disponibilité. Nous avons tous des capacités. Personne ne peut dire ici, ce matin, je n'ai pas de capacité. Mais chaque personne dans cette salle a une capacité. Je suis capable de chanter. Je l'ai prouvé, j'ai chanté ici. Mais je ne peux pas jouer un instrument de musique. Du moins, pas pour l'instant. Peut-être jamais non plus. J'ai la capacité de parler dans le micro. Mais je n'ai pas la capacité de fixer les choses en arrière pour que la conversation soit agréable. Si ce n'est pas agréable, ça ne dépend pas de ceux en arrière. Ça va dépendre de moi. Mais eux autres vont s'arranger pour que je sois bien entendu. Je suis capable de faire des choses, mais je ne suis pas capable de tout faire. Par contre, il y en a d'autres qui sont capables de faire des choses que moi, je ne peux pas faire. Tout le monde ici a un certain talent donné par Dieu. Tout le monde. Mais est-ce que je me mets disponible à le développer, à le faire croître, ce talent-là, ce ou ces talents-là? Vous pouvez en avoir plus qu'un. Vous vous rappelez la fameuse parabole des talents de Matthieu 25, et aussi représentée dans Luc. La fameuse parabole où le Seigneur donne des talents à ses serviteurs. Il en donne 5 à un, 2 à l'autre et 1 à un dernier. Et ces talents-là, ils sont le premier qui avait 5 talents en a fait valoir. Il dit, je les ai fait valoir, ces talents-là. Et on pourrait lire dans Matthieu 25. Dans Matthieu, au chapitre 25, et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, apporta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il t'a fallu donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » On voit à quelque part que les 2 premiers serviteurs ont pris du temps. Ils ont été disponibles pour le maître. Et ils ont fait valoir ce que le maître vous avait donné. Et ils ont rentré dans la joie de leur maître. Le troisième, il a dit, non, oh non. Je vais aller mettre ça dans un trou dans la terre. Comme ça, personne ne va savoir ce que c'est. Je ne me le ferai pas voler. Je n'aurai pas de risque. Ma peur, mes craintes, ça va être tout banni. Puis je vais laisser ça. Mais qu'il revienne, il m'a redonné son fameux talent. Là. Non. Le Seigneur n'a pas donné des talents pour les enfouir dans la terre, pour se cacher de ça, pour avoir peur de les utiliser. Mais il les a donnés pour qu'ils puissent être prospères, pour qu'ils puissent être prospérés. Voici à quoi servent les serviteurs. Les serviteurs sont là pour faire progresser le monde du maître. Mais maintenant, si tu caches, si tu as peur, si tu as crainte, si tu crains, si tu dis « Ah oh, non, non, je ne suis pas capable », le Seigneur n'est pas honoré de cela. Plutôt, il va dire « méchant et paresseux ». Et même la raison que le serviteur utilise n'est pas valable. Tu es un homme sévère, tu es un homme dur, puis là, j'ai eu peur de toi. Mais le maître, le serviteur n'aurait pas eu à craindre s'il avait valoir son talent. Un seul autre talent. Et même le maître, il dit, tu n'avais même pas des efforts à faire, tu avais juste à aller voir quelqu'un qui était capable de faire de l'argent avec. Et tu aurais pu te débrouiller comme ça. Au lieu d'avoir peur, au lieu d'avoir la crainte, ce n'est pas ça que je veux que tu sois. Tu n'es pas un bon serviteur. Tu es plutôt paresseux. Voyez-vous, c'est une question de disponibilité. C'est une question de dépenser son temps pour le Seigneur, pour le Maître. C'est une question, non pas de capacité. Nous avons tous une capacité, tout le monde. Et tous ensemble, nous pourrions aller beaucoup plus loin. Si chaque personne pouvait dire quelque part, « J'ai seulement qu'une capacité, mais je vais la mettre à profit pour Dieu. » Servir, c'est découvrir d'abord quel est le ou les talents que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je puis faire? Qu'est-ce qui est à ma portée? Je peux ce matin, devant vous, emmener une prédication que j'ai préparée. Mais il y a bien des choses que je ne suis pas capable de faire, que tout le monde ici pourrait faire. Je n'ai pas toutes les capacités, mais tous ensemble, on peut avoir d'énormes capacités. Pour notre vie chrétienne, il devrait y avoir une place pour servir notre Dieu. Pour un chrétien, il doit avoir une place dans sa vie pour servir notre Dieu. Quelle est cette place que vous êtes censé avoir? Pourquoi que je devrais avoir une place dans ma vie pour servir Dieu et son royaume? Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous nous démarquons. Nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons à Dieu. C'est du moins ce que j'ai dit il y a 40 ans lorsque j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce n'est plus ma vie, c'est ta vie qui est en moi. Maintenant, elle t'appartient. Et je suis ton serviteur et je sais que tu m'as donné des choses à faire et je pourrai les faire. Et merci que tu m'aies donné ces capacités-là. Maintenant, je vais être disponible pour toi. Pourquoi je devrais avoir une place dans ma vie? Parce que le service nous donne l'occasion de servir une cause beaucoup plus grande que nous. Ça dépasse ce que moi je peux faire. Ça dépasse bien des choses. Vous savez, c'est une énorme valeur de pouvoir servir un Dieu beaucoup plus grand que nous. C'est quelque chose d'immense. Lorsqu'on se met à réfléchir, ma maison, mon auto, mon terrain, les choses que j'ai, c'est minime ça, c'est rien. Mais la cause de Dieu, waouh, ça c'est grand, c'est immense. Et Dieu me donne l'occasion de servir cela. Et ça a des répercussions jusque dans l'éternité. Deuxièmement, parce que Dieu a tellement à nous dire et à nous apprendre dans notre service. Servir Dieu m'a enseigné énormément de choses. Et j'entends des gens parler lorsqu'on discute. Et les gens, je réalise lorsqu'ils me disent des choses, à force de servir, Dieu leur parle, Dieu leur montre quelque chose, Dieu leur permet d'avancer. Naturellement, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de toujours craindre et de penser qu'à quelque part, Dieu nous a donné des capacités d'avancer. Et troisièmement, parce que Dieu veut pouvoir utiliser les autres personnes autour de nous pour façonner notre caractère, pour adoucir les imperfections qui nuisent à notre croissance. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, j'ai acheté une maison avec un autre frère, un autre chrétien. Et puis, je me rappelle, lorsque je discutais avec mon épouse, j'appelais ce frère-là mon papier sablé. C'était un bon frère, il était correct. Moi aussi, j'étais correct. Mais vous savez que le choc des idées, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Ça façonne des caractères. Et j'ai dû parfois, même souvent, ravaler ma salive en disant, « Tais-toi, Denis, tais-toi, pas de même. » Dieu façonnait mon caractère avec les autres personnes qui sont autour de moi. Et c'est ce que le service fait. Et j'aime bien ça avoir des feuilles. Qu'est-ce que c'est aussi le service? Lorsqu'on a décidé, lorsqu'on a trouvé notre tasse de thé, lorsqu'on a trouvé qu'est-ce qu'on veut faire pour le Seigneur, d'abord, s'y engager, mais surtout respecter notre engagement. C'est très important. J'imagine que pour ceux qui travaillent ici, vous travaillez avec certaines conventions collectives ou une certaine convention avec votre patron. Vous avez une convention avec votre patron, vous êtes censé travailler 40 heures semaine et vous êtes censé avoir 2 jours de congé, que ce soit la fin de semaine ou non, et vous êtes censé avoir des conditions de travail. Maintenant, je verrais mal comment est-ce qu'un employé arriverait devant son patron et dirait « Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, patron, c'est 30 heures semaine que je vais travailler, je ne travaille jamais le samedi dimanche et je vais avoir 20 jours de congé maladie payé par année. » Le boss dirait « Oh, tu veux-tu chercher un autre job? » Tu cherches un autre job parce que ce n'est pas ici, là. On s'est engagé d'une certaine manière et c'est cette manière-là qui continue. Lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, qui est beaucoup plus grand qu'un patron terrestre, lorsque nous engageons le Seigneur, nous engageons selon ses conditions. Seigneur, tu veux que je le fasse. Tu veux que je le fasse comme ça? Eh bien, je le fais, je vais le faire jusqu'à la fin. Imaginez maintenant un moniteur d'école du dimanche qui déciderait, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus l'école du dimanche. Fini. Je me suis engagé pour l'année. Non, je ne me suis pas engagé pour l'année. Je ne me suis pas engagé. Wow, t'as une minute, là. Là, je vois, je vois Stéphane et Marlène qui commencent à voguer sur des eaux un peu moins tranquilles et ils commencent à paniquer un peu. Pourquoi? Parce que l'engagement n'a pas été respecté. Ecclésiaste, dans le chapitre 5, nous dit « Si, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. Procède à ton engagement. » Et la deuxième chose dans le service, c'est de ne pas négliger le travail à accomplir. Je peux bien botcher, je suis bénévole. Je peux bien faire les jobs à moitié, je suis bénévole. C'est pas grave, ça. Oui, c'est grave. Lequel de vous, s'il y a quelque part, décide de faire, dans le proverbe, j'ai oublié de le noter ici, dans Proverbe 18, verset 9, il dit, « Celui qui néglige son travail est le frère de celui qui détruit. » À quelque part, négliger son travail, ça n'a pas de valeur. Une route bien faite, c'est lorsque la route est complétée et bien faite qu'on met le numéro dessus. Lorsque le travail est complété et bien fait, qu'on peut dire, « Voilà, tu es un bon et fidèle serviteur. » Donc, ces deux choses-là sont importantes. Respecter son engagement et ne pas négliger le travail, le faire du mieux que l'on peut. Ah, ça ne veut pas dire, « Ah, je vais faire des erreurs et je suis le premier à en faire. » Mais j'en fais peut-être beaucoup. J'en fais peut-être trop. Mais je fais mon possible pour essayer d'accomplir le travail du mieux que je peux. C'est un avertissement à la prudence. Maintenant, s'engager. S'engager, c'est pas toujours facile. Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Est-ce que je peux faire des choses que je peux sortir de ma zone de confort? Peut-être. Maintenant, le Seigneur nous dit, lequel de vous, dans Luc 14, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et de voir s'il y a de quoi à terminer de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. Avant de s'engager à bâtir une tour, on doit calculer. On a-tu les moyens de le faire? Avant de s'engager dans une guerre, on dit, on a-tu une armée assez imposante pour gagner la guerre? Sinon, on va procéder autrement. Mais il existe plusieurs manières de calculer la tour, de calculer la manière de faire. J'aimerais vous dire, voir comment est-ce qu'on a une implication. Comment est-ce qu'on peut faire pour calculer la tour? Premièrement, j'ai besoin de savoir comment je peux servir. Comment est-ce que ma décision sera basée aussi sur ce que j'aime faire, OK, ou ce que je peux faire. Demandez-moi pas la semaine prochaine de vous jouer un instrument de musique en avant, là. Ça ne marchera pas pendant tout. Si vous voulez vider la salle, oui, OK, ça fonctionne, là. Mais si vous voulez rester dans la salle, donc, je vais baser sur ce que j'aime faire, ce que je peux faire. Première des choses. Deuxièmement, j'ai besoin d'impliquer Dieu dans ma décision. Et je vais prier le Seigneur. Est-ce que tu me vois là? Et une autre chose utile, c'est peut-être d'aller vers quelqu'un pour lui expliquer votre projet. Priez avec vous, vous accompagnez un ancien ou peu importe. Mais peut-être que cette frère-là ou cette sœur-là pourra vous dire, je te vois là, mais il y a quelque chose d'autre. Fais attention à ci ou fais attention à ça. Parfois, le troisième point, pour me rassurer, je pourrais peut-être avoir une période d'essai, juste pour voir si ce que je pense correspond à la réalité. Donc, avant de m'engager, je pourrais dire, je pourrais-tu essayer? Et personne ne va dire non là-dessus. Je pourrais-tu essayer le son en arrière? Je pourrais-tu essayer de calibrer le son en arrière? Là, ça va buzzer pendant un bout de temps, hein? Mais non, je ne me vois pas là. Au départ, je ne me vois pas là. Je me vois ailleurs, mais je ne me vois pas là. Je sais où est-ce que je me vois à l'heure actuelle. Parce que j'ai fait assez de gaffe ailleurs que je sais que je n'irai pas là. Donc, je sais un peu plus que ce que j'ai besoin. Mais si vous ne le savez pas, lorsque vous trouvez quelque chose, faites l'essai et allez vers les personnes en disant « Je veux faire un essai de cela. » Dans le service, deux aspects importants à considérer. Et je l'ai mentionné, je ne comprends pas que mon message est si mêlé. Là. Maintenant, on ne peut pas dire que servir, on ne peut pas dire complètement que servir ne fait pas grandir. Oui, servir nous aide à grandir, mais comment? Comment est-ce que le service nous fait grandir, nous fait progresser? Servir pour grandir, oui, mais comment? Premièrement, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste, il n'oublie absolument rien. Parfois, servir, c'est dans la complète anonymat. On peut faire des choses, on peut accomplir des choses, et personne ne l'a vu. Même, il y a des gens qui vont dire, « Qui c'est qui a fait ça? » Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui. C'est fait, en tout cas. Peut-être que c'est ça. Mais lui, Dieu, ne voit absolument tout. Il n'écarte absolument rien. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Peu importe le travail, ne serait-ce que d'apporter un verre d'eau en avant. Dieu n'oublie rien. Il n'est pas injuste, contrairement aux hommes. Et l'amour que nous avons montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Lorsqu'on rend des services aux saints, lorsqu'on le fait de la bonne manière, Dieu n'est pas injuste pour nous bénir de cela. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Voilà un autre facteur de croissance. Conserver la même espérance. Je travaille pour la bonne cause et j'ai cet espoir que les choses vont avancer pour la gloire de Dieu. Travailler pour Dieu amène une certaine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point. Certains matins, lorsque ça ne me tente pas, physiquement, moralement, mais que je suis obligé parce que je fais ces choses, je suis impliqué à certains endroits, je vais me ramasser ici, puis je vais commencer à accomplir les choses, puis c'est habituellement et très souvent, c'est dans les moments, dans ces temps-là que le Seigneur me bénit. Je ne me suis pas relâché. Je suis venu parce que j'étais responsable. Eh bien, le Seigneur bénit dans ce temps-là. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Être impliqué nous aide à rester, à grandir, à rester fidèle à lui. Dieu n'oublie rien de ce qui se fait, même si c'est dans le plus grand secret. Le zèle du service est en lien avec le maintien de l'espérance et prévient le relâchement spirituel. Voilà un facteur de croissance. Oui, servir pour grandir. OK. Servir pour grandir dans Acte 20. La communion fraternelle qui peut être parfois difficile. Ce n'est pas facile tout le temps, la communion fraternelle. Mais elle est souvent, et même très souvent, bénissante lorsqu'on regarde à la bonne personne, lorsqu'on regarde à Christ. Et dans Acte 20, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans le service pour le Seigneur, c'est encore plus évident. C'est pour moi, dans mon caractère, dans ce que j'ai eu à vivre dans ma vie, c'est plus difficile de recevoir un service que de le donner. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, j'en connais plusieurs qui sont comme ça aussi. Quelqu'un qui me rend un service me gêne. Mais j'aime donner. J'aime, c'est facile pour moi de donner, j'aime ça. Et j'ai plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais lorsque je reçois, je dois penser à l'autre personne qui, lui aussi, ça lui fait plaisir de donner. Et ça me remet à la bonne place. Et le proverbe, excusez. Bon, excusez, mon proverbe préféré, celui qui avec lequel je vis constamment. L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est Proverbe 11:25. C'est un proverbe que j'aime parce que je le vis souvent. La semaine passée, il y a deux semaines, j'étais à Thetford Mines et j'avais amené une prédication. Et lorsque je suis descendu de la prédication par après, je discutais avec un frère. Et ce qui m'emmenait m'a édifié, m'a vraiment, waouh, ce que tu m'emmènes là, ça me réchauffe mon cœur. Il dit, ce que toi tu as emmené dans ta prédication aussi a réchauffé mon cœur. Et parfois, le service, c'est cet effet-là, de réchauffer les cœurs l'un de l'autre. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose est lui-même arrosé. Et on se place dans une situation de désert. Lorsqu'on est dans le désert et qu'on reçoit une bouteille d'eau, c'est vraiment béatifiant. C'est vraiment relaxant. Eh bien, c'est ce que nos conversations de communion fraternelle ont. C'est ce que le service a. Et c'est vraiment une autre chose qui nous fait grandir. Le troisième facteur, qui est un facteur plus de motivation qu'un facteur de croissance. Et c'est 1 Corinthiens, au chapitre 3, du verset 12 jusqu'au verset 14. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Lorsque nous servons Dieu de la bonne manière, lorsque nous servons Dieu pour l'édification de son peuple, des gens, des simples personnes, Dieu nous dit à quelque part que nous bâtissons avec les bons matériaux. Et celui qui bâtit avec les bons matériaux résiste au feu et il recevra une récompense. Lorsque j'écrivais ça, je me suis rappelé lorsque j'avais 12, 13, 14 ans, je n'ai plus l'âge exact, mon père me demande, il dit, si on bâtit, si on fait l'entrée de la cour tout en ciment, on va faire la cour tout en ciment, en carreau de ciment, là. On va faire ça cet été. Il dit, tu veux-tu m'aider? Puis il dit, si tu m'aides, tu vas avoir la 22 que tu vas avoir depuis longtemps. Tu vas avoir la carabine que tu vas avoir depuis longtemps. Je dis, ah oui, c'est sûr, je vais te le faire, ton entrée de ciment. Ben, j'ai tout brassé de ciment. Et longue l'entrée. Mais j'ai tout brassé, ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. À la fin de l'été, lorsqu'on était rendu, on a fini, l'entrée était toute faite. Là. Hey, je la voulais-tu, ma récompense? Hein? Je l'achalais, il n'y avait jamais le temps, mais je l'achalais, je disais, on va-tu chercher ma carabine? Là? On va-tu chercher ma carabine? Là? Je la voulais, ma récompense. J'avais travaillé beaucoup pour cela. C'est le même principe. Je vous le dis, je la veux, cette récompense-là. Et je ne travaille pas pour ça, nécessairement. Mais Dieu m'a dit, à quelque part, dans 1 Corinthiens, que si je bâtis avec des bons matériaux, je vais recevoir une récompense. Eh bien, je vous l'avoue, franchement, je la veux, cette récompense. Et c'est nos œuvres que l'on fait aujourd'hui ont une répercussion éternelle. Je sais, par ces versets, que Dieu a une récompense pour moi. Pas selon l'évaluation des hommes, pas l'évaluation de chacun de vous, même si qu'elle est bonne, qu'elle ne soit pas bonne, que vous me vantiez ou que vous me descendiez. Et je suis sûr qu'il y a les deux dans cette salle. Mais ce n'est pas selon cette évaluation-là. C'est selon l'évaluation de Dieu. Oui, c'est certain que j'ai envoyé du foin, j'ai envoyé du chaume, mais je sais que j'ai aussi envoyé de l'or et de l'argent pour mon Dieu, que je vais être heureux de mettre à ses pieds. Et ça me motive à être dépendant pour l'édification des saints, à être dépendant de Dieu pour que les saints soient édifiés. Et c'est vraiment mon but, que les saints soient édifiés, que l'Assemblée avance, que le cadre de la Madeleine et que toute la ville de Trois-Rivières devienne chrétienne à travers le travail que l'on peut faire, peu importe le travail. Maintenant, pour conclure, peut-être que le Seigneur vous a parlé. Peut-être que vous dites à quelque part, oui, j'aimerais ça servir mon Dieu. J'aimerais ça le servir de la bonne manière. J'aimerais ça être utile à l'œuvre de Dieu. Mais je ne sais pas comment. J'ai aucune idée comment. Allez voir un ancien. Attendez pas qu'il aille vous voir. Faites les premiers pas. Allez voir un ancien. J'aimerais servir. J'ai du temps à consacrer à l'Assemblée. Pas beaucoup de temps. J'ai 2 heures par semaine. 1 heure par semaine. Qu'est-ce que je peux faire? Et discuter avec. Vous allez voir, quelque chose pourrait s'ouvrir, des portes pourraient s'ouvrir et déboucher sur quelque chose de grand. C'est à ça que je vous exhorte ce matin, frères et sœurs, pour que nous puissions tous ensemble avancer, tous ensemble nous puissions progresser et grandir dans l'œuvre de Dieu. Merci, Seigneur, de nous rendre utiles à ton service. Merci de nous rendre capables de te servir, toi. Nous sommes pleins de défauts. Nous sommes pleins de disponibilité aussi. Mais, Seigneur, nous avons aussi des capacités que tu nous as données. Et tu veux que ces capacités-là soient à ton profit. Et nous voulons le faire pour toi, Seigneur. Nous avons vu ce matin que tu es le bon berger qui est mort pour nous. Tu es ce bon berger qui nous a donné sa vie. Seigneur, nous voulons l'honorer, cette vie. Nous voulons te glorifier à travers nos actions. Nous voudrons que nos frères et nos sœurs puissent aussi te glorifier à travers ce que l'on peut faire. Donne-nous, Seigneur, de te fouiller dans nos archives, à savoir si on est capable et si on veut te servir de la bonne manière, si on veut être disponible pour toi, et que ton esprit nous amène à être encore plus vivant, encore plus chaud pour toi, pour ta gloire et pour ton nom. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.